Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Das ist in St. Peter Haus.
France Inter, le 18-20.
Consultation parlementaire repoussée, tension accrue, 90 blessés au moins samedi, nouvelle manifestation dimanche. Elle est toujours là, la contestation libanaise. Elle est là depuis le 17 octobre. Il est grand temps qu'on essaie de la comprendre à nouveau. Le bruit du monde ce soir est en Colombie avec une expérience très particulière avec les FARC. Vous le verrez, le bruit du monde de la suite, c'est Amélie Perrier, où quand les agriculteurs abattent des animaux dans des zones d'Afrique du Sud parce qu'il n'a pas plu depuis 5 ans. Nous irons aussi à Haïfa et à Essaouira. 18h50, pas de monde selon Trump ce soir, 18h55, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, ou comment les vrais vainqueurs des élections en Grande-Bretagne sont les nationalistes, tous les nationalismes même. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Aurélie Daher.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse notamment à Paris Dauphine, à Sciences Po Paris. La contestation, je le disais, au Liban dure depuis le 17 octobre. Parmi tous les pays plus ou moins voisins, en tout cas, dont les contestations sont en train de monter en ce moment, au Liban, on a été les premiers finalement à voir démissionner un Premier ministre. Et depuis ? Eh bien, depuis plus rien ou presque. Est-ce que c'est ça le motif des nouveaux heurts de ce week-end ? Jusqu'à quel point l'impatience est-elle en train de monter ?
C'est compliqué. La situation est effectivement extrêmement bloquée.
C'est compliqué quand on parle du Liban.
Toujours ça commence bien. Toujours compliqué. D'ailleurs, les personnes qui bossent sur le Liban ont un petit slogan à eux qui disent que si vous comprenez quelque chose au Liban, c'est qu'on vous a mal expliqué. Donc effectivement, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de quoi rigoler parce que la situation est vraiment bloquée, très sérieusement bloquée. Elle est bloquée à la fois par le haut et par le bas. Très rapidement, elle est bloquée par le haut parce que on est dans une situation où le système politique libanais veut que le premier ministre soit obligatoirement un sunnite. Or, aujourd'hui, parmi les premiers ministrables, puisque nous sommes à la recherche désespérée maintenant, depuis le 29 octobre, nous sommes à la recherche désespérée d'un premier ministrable, tous les premiers ministrables appartiennent à la maison, en tout cas à la clientèle de Monsieur Hariri, donc quelque part ce serait remplacé
bonnet blanc, blanc bonnet.
Exactement, donc finalement on enlèverait Monsieur Hariri, mais par derrière ça resterait Monsieur Hariri et les personnes autour de lui qui tiraient les ficelles. Donc de ce point de vue là, on a un blocage. Je ne veux pas me faire l'avocate du diable, donc l'avocate en l'occurrence de l'establishment qui est effectivement corrompu, effectivement inefficace. Pour autant, là ils sont vraiment face à un mur. Et puis on a un vrai blocage aussi par le bas. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème. On a vu, ça fait des semaines que les protestataires sont dans la rue. Bon, malheureusement, en plus, le mouvement s'essouffle. On a commencé avec des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans les rues, dans les quatre coins du Liban. Maintenant, grosso modo, on a quelques manifestations de quelques centaines de personnes à des moments très ponctuels, notamment, effectivement, samedi soir, il y a eu un dernier rassemblement dans le quartier du Parlement. Et d'ailleurs, ça a dérapé, ça s'est mal passé. Il y a eu effectivement une descente des forces de l'ordre et puis il y a eu des blessés. Mais on a aussi un vrai blocage par le bas parce qu'on se rend compte qu'au bout de plus de 2 mois après le début des protestations, on n'a toujours aucune réflexion collective sur les leviers d'action, sur les leviers de changement. Il y a par ailleurs quelque chose de très inquiétant, c'est qu'il n'y a aucun travail de ce que j'appellerais de la capitalisation institutionnelle, c'est-à-dire qu'on ne construit pas à partir de ça de nouveaux partis ou de nouveaux mouvements politique, il n'y a pas d'émergence de nouveaux visages, de nouveaux leaders.
Mais alors si on ne le fait pas, pardon, c'est que ça n'existe pas, ces nouveaux leaders, parce qu'effectivement, ils réclament, eux, un gouvernement qui serait totalement indépendant, qui serait technocratique. Est-ce qu'on pourrait le fabriquer, ce gouvernement-là ? Est-ce que ces gens-là existent ? Au fond, est-ce qu'ils existent au milieu de ce mouvement-là ou pas ?
Alors, on a beaucoup misé, notamment, c'était l'année dernière, en 2018, d'ailleurs, il faut que je me dépêche, parce qu'on va bientôt être 2020. 2018, on a eu des élections législatives et on avait placé énormément d'espoir dans ce qu'on avait appelé la liste de la société civile, donc la liste des 7. Et puis finalement, il n'y a qu'une seule personne sur plus de 20 candidats, une seule personne qui a réussi à arriver au Parlement. Quelqu'un qui d'ailleurs aujourd'hui est très contesté, Madame Paula Yacoubian, qui avait été peu présentée comme l'égérie de de l'alternative politique et qui finalement n'a pas fait grand chose, si ce n'est de manière assez cocasse. prendre pour première visite, sa première visite politique a été au QG du Hezbollah pour dire que finalement elle allait très bien s'entendre avec eux et travailler main dans la main avec eux. Donc c'était évidemment la douche froide pour ceux qui avaient voté pour madame Yacoubian. Et puis surtout ce qui interpelle, c'est que c'est pas la première fois que les Libanais descendent dans la rue pour protester contre la corruption de la classe politique et pour réclamer la fin de cet establishment vampire des ressources étatiques. En l'occurrence, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2015-2016, pendant des mois, on avait eu ce qu'on appelait la révolte des poubelles. Les slogans ont été extrêmement violents, extrêmement virulents. On a attaqué les convois des parlementaires avec des poubelles en métal. C'est allé très loin. Et pour autant, 2 ans plus tard, on a des élections législatives. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on revote massivement pour les mêmes. Et on recommence. Donc, il y a quand même une interrogation quant à, j'ai envie de dire, une culture de l'action politique qui existerait vraiment au sein de la société politique. Alors, de la société libanaise, elle existe, mais malheureusement aussi, elle est fracturée. En tout cas, elle est traversée par des fractures de classe aussi. C'est que si on regarde les gens qui ont éventuellement, qui font les premières propositions de leviers concrets de changement, appartiennent à une classe qui, d'abord, a du mal à communiquer avec l'essentiel de la population, c'est la bourgeoisie très éduquée, qui n'a aucun problème d'argent, qui est pour l'essentiel chrétienne, qui vit dans les beaux quartiers de Beyrouth. Bon, il y a un problème de communication avec le reste de la population libanaise, et puis il y a un problème aussi, c'est comment faire participer aussi les autres au changement.
Mais alors, est-ce que vous disiez effectivement au fond que les torts étaient partagés, mais au fond, on a aussi l'impression qu'il y a une. On appelle ça le vieux monde, au fond, chez nous. Est-ce qu'il y a un vieux monde qui s'accroche désespérément et qui s'accroche tellement que la politique de la terre brûlée derrière fait que de toute façon les Libanais n'ont plus le choix et peuvent se retrouver à nouveau avec un Premier ministre qui sera Hariri lui-même qui est parti il y a quelques semaines. Est-ce que jusqu'à quel point le fait de s'accrocher à ce vieux monde est plus fort que les forces de la rue ?
Je pense qu'on a complètement sous-estimé, ça c'est le retour du bâton de la période de la guerre civile, hein. On a sous-estimé le traumatisme, en tout cas les leçons qui ont été retenues par les Libanais, donc de cette guerre civile qui a duré de 75 à 90, 15 ans, on a quand même fait 150 000 morts, 300 000 blessés, plusieurs milliers de disparus, et à la sortie de cette guerre civile, on a choisi de ne pas juger les coupables, on a choisi l'amnistie complète et l'amnésie. Le problème, c'est que ça a créé au sein des communautés des réflexes de méfiance intercommunautaire terribles où personne ne fait confiance à personne de manière transconfessionnelle. Et on se dit, on ne sait jamais, on est dans une zone moyenne-orientale extrêmement bousculée, si jamais il y a à nouveau la guerre, même si c'est une guerre qui viendrait de Syrie, finalement il n'y a que notre communauté et non pas l'État, c'est la communauté qui va nous protéger.
Alors,
pas l'État.
On va écouter l'interview qu'a fait Aurélien Collier à Beyrouth d'une étudiante. J'ai d'abord une question juste avant. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas échapper au chapeautage communautaire au Liban ? De toute façon, il faut passer par ce système-là.
Malheureusement, j'ai envie de dire, si on peut réussir un vrai changement de fond, il va se faire en plusieurs étapes. Ça, il ne faut pas rêver, on ne va pas passer de la situation actuelle à une situation idéale en quelques semaines. Il ne faut pas oublier que la France, elle est passée de Louis XVI à la République, par aussi un certain nombre d'étapes et pas toujours des glorieuses. Il y a eu quelques marches arrière. Bon, la situation libanaise n'est pas aussi grave que la monarchie absolue de Louis XVI, mais quand même, ce que je veux dire, c'est que les changements politiques ne se font pas facilement. Et là, effectivement, il y aura une première étape. Dans la première étape, il faudra quand même maintenir la question du levier communautaire.
Alors, on va parler du Hezbollah dans un instant. Je voudrais d'abord, Aurélie Daher, qu'on écoute cette étudiante qui a rencontré Aurélien Colli. Elle s'appelle Samia, et voici ce qu'elle dit.
C'est un rêve pour cette génération qui veut construire le Liban et le reconstruire, loin de toute la corruption. Nous, notre génération, ce n'est pas une génération de guerre, mais une génération qui vise à effacer ces traces de guerre, qu'on puisse nous-mêmes nous exprimer pour une fois.
On n'a rien vu de positif venant de ces visages. Et c'est ce qu'on veut changer, parce que pour une fois, on lève le même drapeau. Pour une fois, on demande les mêmes choses. Et pour une fois, on est unis. Des sunnites, des chiites, des druzes, des chrétiens, des athées. On parle tous de même demande, d'essayer de reprendre le pouvoir. Et si on continue comme ça, je pense qu'on peut y arriver.
Aurélie Daher, elle dit tout ce que vous nous avez expliqué, Samia, sur l'espèce de rêve, tout ce qui est joli dans cette révolution-là, mais aussi tout ce qui nous emmène effectivement à une impasse, quelque chose de très joli dans ce qu'elle dit, mais on ne sait pas très bien où. Mais je retiens quand même quelques phrases. Nous ne sommes pas des enfants de la guerre. Est-ce qu'il y a quand même cette génération-là qui, justement, ça lui parle pas du tout, ce que vous disiez sur la guerre civile précédente, y compris d'ailleurs, je parlais du Hezbollah tout à l'heure, le Hezbollah qui se présente comme le parti de la résistance face à Israël, autant de choses qui ne parlent plus peut-être à cette génération aussi. Donc est-ce que quand même, ici, là, il y a un terreau pour quelque chose de neuf qui ira au-delà de tout ce qui a construit le Liban précédemment, c'est-à-dire une multiplication de guerres?
Alors, j'aimerais quand même corriger quelque chose. Ça, c'est mon côté prof quarantenaire face à une étudiante de 20 ans. Non, ce n'est pas la première fois qu'on brandit ensemble le drapeau. C'est pas la première fois qu'on réclame la même chose.
C'est la première fois que Samia le fait.
Pour
probablement.
Elle, voilà. Ouais. Je pense aussi qu'il y a effectivement un côté générationnel qui fait qu'elle a l'impression que c'est la première fois. En tout cas, pour elle, c'est probablement sa première bataille. Et je l'engage à la maintenir, à la continuer. Pour autant, j'ai autant, moi, dans mes classes, d'étudiants d'origine libanaise qui vous disent que si ça barde, ils sont prêts à reprendre les armes, comme en 60. Donc, il y a effectivement, on est face à une société qui est éclatée. Pour autant, ceux qui sont, j'ai envie de dire, les plus forts, parce que c'est eux qui ont la capacité de blocage, c'est malheureusement ceux du vieux monde, ce que vous appelez le vieux monde. On a surtout, je pense, le principal problème, si on a éventuellement, effectivement, une certaine catégorie de Libanais qui, effectivement, de manière transconfessionnelle, réclame la même chose, est prête à aller de l'avant, il ne faut pas oublier que si on est d'accord sur l'objectif à atteindre, on n'est pas forcément d'accord sur les manières d'y arriver. Il y en a qui disent qu'on fait sauter complètement le système confessionnel, c'est fini les quotas au Parlement par communauté, c'est fini un président chrétien, premier ministre sunnite. Puis il y a ceux qui disent non, moi je veux bien effectivement un pays, mais je veux qu'on garde un minimum de confessionnalisme en politique. Et c'est là que je pense qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue. Et c'est là malheureusement que le dialogue il est difficile à entamer. Et puis il faut pas oublier qu'on a un problème aussi au Liban, c'est que les communautés malheureusement ne se connaissent pas. Elles se parlent très peu, elles se prennent très peu en compte, elles s'intéressent aux histoires, parce que malheureusement, en fait, l'histoire nationale libanaise, c'est une histoire plurielle. C'est l'histoire des communautés. Or, les 30 dernières années n'ont pas du tout été vécues de la même manière. Et en particulier, les chiites, je pense que les non-chiites au Liban sous-estiment beaucoup trop le parcours de la communauté chiite, qui est un parcours qui a énormément évolué sur les 20, les 30 dernières années. Les chiites, aujourd'hui, ils ont des frustrations, ils ont des attentes, ils ont des craintes. Et si les autres communautés ne savent pas les rassurer et y répondre, le changement n'est pas possible, parce qu'on présente un peu les Libanais comme étant, il y a ce cœur jeune, transconfessionnel, et puis il y a les chiites un peu dans les périphériques qui sont un peu les troublions, les gens qui passent leur temps à tout bloquer. On oublie que 50% de la population libanaise aujourd'hui, elle est chiite.
Ce qui voudrait dire d'ailleurs que si on sortait du système confessionnel, ça veut dire qu'on se retrouvait avec un chiite à la présidence, un chiite au Parlement, un chiite...
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a aussi des stratégies. Mmh. Moi, je vois bien des gens comme Lori Haitayan, des gens comme Gilles Merdoum, mais qui sont un peu les visages de la société civile, qui font campagne depuis des années et qui tiennent des discours du style « si on se débarrasse du système confessionnel, ce sera le meilleur moyen notamment de mettre le Hezbollah KO ». C'est exactement le faux calcul qu'on a fait en 2005 et ça nous est revenu comme un boomerang en pleine figure. La fin du système politique, ce sera la démultiplication de la puissance du Hezbollah.
Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé par ailleurs, Auril Eder, c'est que le Liban va mal économiquement, économiquement avant cette révolution, ça s'est évidemment aggravé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est aussi par là que ce mouvement peut s'arrêter, au fond? J'ai lu un chiffre qui me paraissait complètement hallucinant, qui disait qu'à ce stade-là et aujourd'hui où nous en sommes, plus de la moitié des Libanais peuvent se retrouver sous le seuil de pauvreté. Il y a eu 5 suicides de personnes qui étaient dans des états économiques tellement terrifiants qu'ils se sont suicidés. Donc, est-ce que le mouvement peut s'arrêter par là, en fait, par la faillite, au fond?
De toute façon, la faillite, je pense qu'on y va, on y va à toute vitesse. Là, on est à 200 à l'heure en direction de la faillite. Mais c'est quelque chose qui nous pend au nez depuis 1992, depuis que Rafik Hariri, donc le père du premier ministre démissionnaire actuel, a mis en place une politique d'endettement massif. À l'époque, lui, son calcul, c'était il va y avoir la paix avec Israël. au Moyen-Orient, et la signature du Liban au bas du traité de paix avec Israël sera monnayée en milliards de dollars. Donc allons-y, profitons-en, n'est-ce pas, pour faire financer la reconstruction du Liban par la communauté internationale, qui nous remboursera le jour où on signera la paix. Il n'y a pas eu de paix, et on se retrouve avec une dette absolument monstrueuse qui a les conséquences que l'on voit aujourd'hui.
Et aujourd'hui, et ce serait la dernière question, vous me racontiez ça tout à l'heure, comment ça se passe ? Comment on est payé quand on travaille au Liban aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on arrive à avoir des devises ? Comment du coup on arrive simplement à se nourrir, à aller dans les magasins ? Comment ça se passe au moment où on se parle ?
Les devises, actuellement, c'est pas la peine d'y penser. Les ATM, les distributeurs de cash, si on réussit à trouver un ATM qui a encore quelques réserves, c'est uniquement du libanais. Vous pouvez plus tirer de dollars. Donc là, moi, par exemple, je vais bientôt partir au Liban. J'ai tous les copains, la famille qui me dit ramène des euros, s'il te plaît. Il n'y a pas moyen d'en avoir ici. Les boulangeries n'arrivent pas non plus à s'approvisionner en quantité parce qu'elles payent en devises étrangères pour ensuite vendre en libanais. Donc elles n'arrivent pas à s'approvisionner. Il y a des mécènes qui distribuent des paquets de pain, qui placent des paquets de pain de manière anonyme sur les places publiques pour que les plus pauvres se servent. Donc c'est joli, mais on va pas tenir comme ça très longtemps. Et puis surtout, le problème, c'est les salaires, parce que dans le secteur public comme dans le secteur privé, au Liban, vous ne pouvez pas toucher directement votre salaire. Il faut aller le chercher à la banque. Les entreprises comme l'État versent vos salaires aux banques et les banques vous les redistribuent. Or, depuis novembre, les banques font de la rétention de salaire. Donc, pas de salaire payé en novembre, pas de salaire a priori payé en décembre. On voit l'explosion au bout de la rue, là.
Aurélie Deher, vous reviendrez quand vous serez rentrée du Liban, transformée en coffre-fort. Donc, on l'a bien compris. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
La suite, ça se passe en Colombie ce soir avec des formations au métier d'éco-guide par des Français. Et puis, les participants, figurez-vous, qui veulent apprendre ce métier, ce sont des anciens FARC. Le bruit du monde, la suite est sous les radars, Amélie Perrier. Il n'a pas plu depuis combien de temps à Adélaïde en Afrique du Sud ?
Depuis 5 ans, ouais. Et c'est très grave.
Pas de monde selon Trump. Ce soir, le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir.
Hello.
Les vainqueurs des élections britanniques, dire Jean-Marc, ne sont pas ceux qu'on croit.
Exactement. Boris Johnson a gagné les élections. Il va faire le Brexit. Il lui reste le plus compliqué, le défi des nationalistes. Éviter l'éclatement du Royaume-Uni.
Et on verra ça ensemble, là, tout de suite. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par les États-Unis. Nous allons au Texas avec les Black Pumas. Fire.
I'm
Le bruit du monde est en Colombie ce soir avec un programme de réinsertion hors du commun initié et cofinancé aussi par la France avec la Colombie. En novembre dernier, dans le sud du pays, deux agents du parc naturel des Landes de Gascogne ont formé des Colombiens au métier d'éco-guide. Vous me direz oui, c'est bien, c'est super. Et alors, eh bien, les participants, figurez-vous, étaient d'ex-combattants des FARC et des victimes du conflit armé. Vous allez voir comment ça marche grâce à Najed Benrabah et Sarah Nabli qui ont suivi cette formation pour nous.
Non, juste yo, tengo una librería, vendo libros. Soy autor, escribo también.
Donc je suis libraire, je vends des livres, je suis écrivain aussi, un peu voyageur, et je peux voyager longtemps. Je ne parle pas de l'argent pour le moment. Ce que j'aime la culture. Je suis donc Robert, un Britannique, car c'est important de le noter.
Robert, soy inglés, vamos a meterlo porque es importante.
Ahora la idea es de...
Angèle Martinez, un animateur nature du parc des Landes de Gascogne, endosse un rôle, celui d'un éventuel touriste en route pour la Colombie. Il demande alors aux élèves de la formation, 11 personnes, quel type d'activité ils peuvent lui proposer. Cette mise en scène est un des outils utilisés pour les former. Angèle Martinez.
Travaille sur une carte, apprendre à se repérer, à poser ses activités, à savoir la quantité, à savoir qui est en capacité de pouvoir le faire, quel matériel il faut, qu'est-ce qu'on n'a pas, et pousser un petit peu plus loin le fait que demain il faut qu'ils arrivent à sauter le pas, parce que c'est juste ça qui leur manque, sauter le pas.
Là, paraît que c'est un conflit pour savoir qui va subir sur la madera.
Un colibri qu'on a réussi à trouver entre le feuillage. Et c'est une espèce qu'on n'avait a priori pas vue jusqu'à là. Très sombre, avec un petit point rouge sur la poitrine.
Des sorties sur le terrain sont également organisées. Les participants doivent proposer des visites guidées pour observer, voire débusquer, les oiseaux cachés sur les rives du lac de Cocha, où se trouve l'île de Corota, une réserve naturelle près de Pasto. Jérôme Fuerpouré, écologue.
On est juste en train de regarder tous les oiseaux qu'on a à portée de main depuis... le logement, et ça suffit bien souvent en Colombie pour trouver plein de chouettes choses. Il suffit juste de sortir ici pour voir des choses sympas, notamment la paba qu'on voyait tout ce matin. Cet oiseau quand même hyper emblématique. Et on s'est mis un peu en situation, moi un touriste qui aurait envie de voir cet oiseau emblématique. Donc j'ai demandé à Rigo, c'est fouet. Okay. Et voilà, il a su me montrer, me commenter surtout ce que les pabas... les pénélopes là, qui elles étaient, comment distinguer le mâle et la femelle, qu'est-ce qu'elles mangeaient, leur comportement. Donc voilà, c'était plus que juste la trouver et lui donner un nom local, c'était voilà, être capable aussi de commenter et de nous raconter un peu son voilà sa vie quoi, son comportement et tout ça. Donc c'était chouette.
Muni d'une longue vue, Wilson Ferney Urbina, 37 ans, parvient à repérer deux oiseaux, deux pénélopes, perchés sur la branche d'un arbre de plusieurs mètres. Pour Wilson, cette formation est l'occasion d'offrir un meilleur avenir à sa fille de 18 ans, elle-même enceinte, mais aussi à toute la communauté indigène qui compte 210 familles, celle de la réserve de San Juan de Mayasquez.
Notre objectif est que les étrangers viennent nous rendre visite dans notre réserve. Mais pas seulement les étrangers, les gens des alentours aussi. Car notre réserve est peu connue. C'est pour ça qu'on l'appelle le paradis caché.
Cette zone est tropicale, sauvage et difficile d'accès, mais également une ancienne zone de conflit.
Igual también pertenezco a la reincorporación.
Je fais partie des réincorporés dans la société. L'un des réincorporés de ma région est maintenant dans la zone.
Ya está el ejército allá, al pendiente. Sí, con las FARC. Por lo que el gobierno siempre fue...
J'étais avec les FARC car on se sentait abandonné par le gouvernement. Alors on cherchait tous les moyens pour s'en sortir, pour voir si on trouvait une autre sortie. Je voulais changer les choses, la vie des paysans.
Algo el gobierno llegaba con algo de apoyo para el campesino, para cambiar las cosas.
Depuis 2 ans, Wilson et 130 ex-FARC ont rendu les armes et ont monté une coopérative agricole. Marcela Pepinoza, 23 ans et mère d'une fille de 6 ans, en est la secrétaire.
Si, yo hacía parte de la FARC como colaborador.
Je faisais partie des FARC. C'est-à-dire que je transportais des choses et je donnais des informations.
Transmitiendo información. Yo ahí en el pueblo en Tayambí.
Maintenant, dans le village de Talambi, je suis en train de construire ma maison. Je veux la transformer en posada, c'est un logement pour accueillir des touristes. Elle est bien avancée. J'aime les sports extrêmes et j'aime beaucoup marcher. C'est une caractéristique des réinsérés. Avec les autres du village, on veut continuer ce projet d'écotourisme. Et j'espère qu'on y arrivera.
Après une semaine de formation, les participants ont reçu un diplôme, des jumelles, des appareils photo fantômes pour débusquer les animaux sauvages la nuit et une longue vue pour observer les oiseaux. Prochaine étape, un voyage en France pour certains d'entre eux au parc naturel des Landes de Gascogne. Pour ce projet colombo-français, 60 000 euros de budget ont été partagés entre la France et les instances colombiennes. La moitié a été prise en charge par la région Nouvelle-Aquitaine. La Colombie est le premier bénéficiaire de l'aide publique du développement français sur le continent américain. Depuis 2012, la France a versé plus de 2,5 millions d'euros de dons pour soutenir le processus de paix.
Najet Ben Rabah et Sarah Nabli pour Un jour dans le monde ce soir. Merci à vous deux. Le bruit du monde, la suite, ça se passe sous les radars. Et c'est Amélie Perrier.
I declare the 25th session of the conference of the parties closed.
Voilà, le bruit du monde ce soir, c'est le bruit d'un bide, hein. En gros, celui de la COP25 et les États qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'entendent pas l'urgence non plus. Car nous, on se plaint peut-être de la pluie en ce moment, en tout cas en région parisienne, surtout à vélo, à Paris, à cause des grèves.
Oui, mais imaginez qu'il ne pleuve pas depuis 5 ans. C'est ce qui est en train de se produire en Afrique du Sud, dans la province du Cap-Oriental. On ne sait même plus à quand remontent précisément les dernières vraies pluies, au moins 5 ou 6 ans. Et les premiers à souffrir, ce sont les agriculteurs. C'est très dur pour nous, les travailleurs dans les fermes, dit Ricardo Bloch. Il est ouvrier agricole, il est au micro de l'AFP. Ricardo Bloch, il nous dit que c'est parce qu'il n'y a pas de pluie. Tous, dit-il, nous nous battons pour les animaux. On est très en colère. On est bouleversés. Tous les sentiments négatifs prennent le dessus. Alors, à cause de la sécheresse, les éleveurs envoient leur bétail à l'abattoir. Tout le monde vend en même temps. Le marché est saturé. Les bêtes ne valent plus rien. Sans parler de leur laine de mauvaise qualité, pleine de poussière et pas solide, le prix de la mérinos s'est effondré de 40% en un an. Pareil pour les maraîchers. Les avocatiers qui donnaient 50 fruits n'en produisent plus qu'une dizaine par manque d'eau. Dans les villages à côté, des ONG livrent l'eau par camion-citerne, la même cohue à chaque fois. On la garde pour boire et cuisiner. Il n'y en a pas assez pour se laver ou faire la lessive, avouent les habitants des townships. Autre conséquence, les enfants sont réquisitionnés pour aider les parents à chercher et transporter de l'eau et beaucoup donc se déscolarisent. La colère monte contre les pouvoirs publics, accusés de ne pas avoir anticipé la crise, accusés de ne pas mettre les moyens nécessaires pour fournir la population en eau, accusés de scandales de corruption qui touchent justement la gestion de l'eau. En Afrique australe, les températures augmentent 2 fois plus vite que sur le reste du globe. L'an dernier, Le Cap, deuxième ville sud-africaine, avait échappé de justesse au jour zéro. Vous savez ce que c'est le jour zéro, hein. C'est le jour où les robinets allaient être à sec. Les habitants ont dû se plier à des restrictions d'eau très sévères.
Voilà une élue maintenant, Amélie, qui voulait protéger des animaux.
Elle. Et je vous laisse deviner quels animaux, Fabienne. Un indice, ça se passe en Israël.
Oui, c'est un sanglier, je le reconnais.
Ah, vous avez reconnu, un sanglier, effectivement.
J'en ai un à la maison.
Et ben voilà, parfait. Ben là, les sangliers envahissent la ville d'Haïfa, dans le nord d'Israël. Des dizaines de familles de cochons sauvages se baladent dans les rues, broutent les pelouses. Depuis que la nouvelle maire, Enat Kalish Rotem, a été élue il y a un an, elle a interdit la chasse des sangliers au nom du droit des animaux. Haïfa, ce n'est pas un village de Sologne, hein, c'est 300 000 habitants au pied du mont Carmel, où vivent de nombreuses espèces sauvages, les sangliers, mais aussi les renards, des chacals, tous protégés par la loi. Si les intrusions des sangliers se limitaient jusqu'à présent à la nuit, ces derniers mois, ils sortent y compris en plein jour. Alors pas d'attaque d'humains pour l'instant, mais les habitants ont peur. Les bêtes peuvent faire jusqu'à 2 mètres de long et pèsent plusieurs centaines de kilos. La mairie, de son côté, incite à la tolérance envers ces animaux sauvages, finalement très urbains.
Bien sûr. Au Maroc, on célèbre un art ancestral entré ce week-end au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Dans le sud du pays, les rues d'Essaouira ont vibré tout le week-end au rythme du gnawa. Alors le gnawa, ce sont des tambours, des castagnettes en acier, des musiques et des rythmiques lancinantes et des danseurs acrobates qui sautent dans les airs habillés de costumes de toutes les couleurs. Un spectacle somptueux qui associe des rituels africains et le culte des saints de l'islam. Il a été préservé au Maroc par les descendants d'anciens esclaves venus d'Afrique subsaharienne. Immense fierté donc pour Essaouira, pour le Maroc, et consécration pour André Azoulay, homme politique marocain né à Essaouira, conseiller de Mohamed VI, également père d'Audrey Azoulay, notre ancienne ministre de la Culture, qui aujourd'hui, est-ce vraiment un hasard, est la directrice générale de l'UNESCO. Cette reconnaissance au patrimoine universel est une chance merveilleuse pour le gnawa et pour le festival d'Essaouira, qui célèbre le gnawa tous les ans, au mois de juin, et qui a su ouvrir cette culture à des métissages avec les musiques latines, africaines, avec le jazz surtout. On y a vu Didier Lockwood ou Marcus Miller par le passé se produire avec les Maalem, ce sont les grands maîtres du gnawa.
Merci beaucoup Amélie Perrier, on se retrouve demain, nous partons pour Sydney, figurez-vous. Angus et Julia Stone, Big Jet Plane, c'est le titre de la chanson et c'est vrai que, ma foi, ça pourrait être pratique.
She said, hello mister, pleased to meet you. She drive me crazy, she drive me crazy.
pas de monde selon Trump ce soir. On ne peut pas joindre Grégory Philips en période de grève, mais Jean-Marc Four ne va pas tarder en studio. Voici, en attendant, quelque chose d'un peu baroque, mais qui plaît beaucoup à Jubaka, notre programmateur. Écoutez bien, ça s'appelle Minyu Crusaders, ce sont des Japonais. La chanson s'appelle Kushimoto Bushi. C'est parti. Japonais qui font une musique d'inspiration cubaine. Et ça va beaucoup trop loin, cette grève.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, à Londres, Boris Johnson a commencé donc la formation de son gouvernement. Il présentera son plan de Brexit vendredi au Parlement britannique. Il dispose d'une large majorité, donc on le sait, après la victoire de son parti jeudi dernier, le Parti conservateur. Mais pour vous, les vrais vainqueurs du scrutin au Royaume-Uni ne sont pas tant les conservateurs que les nationalistes de tout poids. Laissez votre monde à l'envers.
Bon, on va pas tortiller que Boris Johnson ait gagné, c'est indiscutable. 365 députés, je le rappelle, sur 650, c'est la victoire la plus éclatante des conservateurs depuis Margaret Thatcher il y a 40 ans. Mais en effet, ils n'ont pas gagné sur leurs valeurs, ils ont gagné davantage sur l'identité, sur le nationalisme. On va même être plus précis sur le nationalisme anglais, pas britannique. Le vote s'est fait d'abord, on le sait, sur le Brexit et sur le message finalement simple de Boris Johnson. On sort de l'Europe, on récupère notre souveraineté. Résultat, un carton en Angleterre et dans une moindre mesure au Pays de Galles, y compris au sein de l'électorat ouvrier, fidèle généralement à la gauche travailliste. Ce vote conservateur est donc assimilable à un vote nationaliste anglais. Et cette poussée nationaliste, elle se retrouve dans les deux autres nations du Royaume-Uni, en Écosse et en Irlande du Nord. C'est juste qu'elle ne profite pas aux mêmes acteurs. En Écosse, c'est un raz-de-marée beaucoup plus impressionnant encore qu'en Angleterre. 48 des 59 sièges pour le SNP, le Scottish National Party, les indépendantistes écossais, qui sont désireux, eux, de rester dans l'Europe, plus 13 élus. Les autres partis sont laminés. En Irlande du Nord, c'est une première depuis la partition de l'Irlande il y a un siècle. Les nationalistes, c'est-à-dire partisans du rapprochement avec l'Irlande du Sud, la République d'Irlande du Sud, comptent plus d'élus, 9, que les unionistes du DUP, 8, favorables au maintien dans le Royaume-Uni. Et le symbole des symboles, c'est la circonscription de Belfast Nord, qui était un bastion historique des unionistes, qui est passé dans les mains du Sinn Féin irlandais. Donc partout au Royaume-Uni, le nationalisme a gagné.
Donc vous êtes en train de nous dire que le pays peut éclater en morceaux.
Oui, peut-être que dans les manuels d'histoire, on verra, hein, dans quelques années, on regardera ce vote de 2019 comme le début de l'implosion du Royaume-Uni. C'est possible. Ce pays s'est constitué au XVIIIe, puis au XIXe siècle par adjonction de l'Écosse, puis de l'Irlande. Peut-être qu'il ne survivra pas au XXIe siècle. En remportant ce net succès électoral, Boris Johnson a fait en quelque sorte le plus facile. Le plus compliqué, ça pourrait être d'éviter l'éclatement du Royaume-Uni parce que la mécanique centrifuge est lancée. En Écosse, la leader du SNP, Nicola Sturgeon, pourrait, dès cette semaine, exiger un nouveau référendum sur l'indépendance. Il y a 5 ans, elle l'avait perdu, 45-55, mais ça c'était avant le Brexit. Mmh. Et les Écossais, aux 2/3, veulent rester dans l'Europe. Pour Nicola Sturgeon, c'est clair, je cite, « Boris Johnson n'a pas de mandat pour sortir l'Écosse de l'Europe ». En Irlande du Nord, ça va sans doute prendre plus de temps, mais pour la première fois, l'hypothèse d'un référendum sur la frontière entre les deux Irlandes devient plausible. C'était inimaginable jusqu'à présent. Les nationalistes du Sinn Féin commencent désormais à en parler. En plus, en Irlande du Nord, il y a le facteur démographique à ne pas négliger. Les catholiques pro-républicains font plus d'enfants que les protestants qui sont favorables à Londres. Donc à terme, une réunification des deux Irlandes ne peut plus être écartée.
Donc il y a presque un côté, c'est mon expression favorite, appartement témoin des effets du nationalisme dans cette crise britannique.
Oui, oui, absolument. Et dire ça, c'est pas porter un jugement de valeur, hein, sur le national. C'est juste un constat. Quels sont les enseignements principaux ? 1. Le nationalisme crée le nationalisme en retour, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, en misant sur l'identitaire anglais, Boris Johnson a déclenché en boomerang une poussée des identitaires écossais et irlandais. 2. Le nationalisme crée le conflit. En Irlande du Nord, la poussée des républicains catholiques pourrait réveiller les tensions communautaires avec les protestants. En Écosse, il faut s'attendre à un bras de fer très tendu avec le pouvoir central de Londres. Il y a même des risques de tensions sociales. Je vais vous prendre un exemple. Hier, lors du match de football Celtic Glasgow Hibernians, les supporters de Glasgow chantaient « If you hate the Tories, clap your hands !» Si tu détestes les conservateurs, frappe dans tes mains. Et puis tertio, ces poussées nationalistes enquiquinent l'Union Européenne. Parce qu'elle n'est pas une fédération, c'est plutôt une coalition d'États-nations, donc l'Europe est contrainte de ménager ses membres, les nations. C'est pour ça que si l'Écosse obtenait son indépendance, l'Europe serait bien embêtée. Ce serait ouvrir la porte, par exemple, à l'indépendantisme catalan. Hors de question pour l'Europe de mettre l'Espagne dans l'embarras. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas en niant ces poussées identitaires et nationalistes que l'Europe les fera taire.
Jean-Marc Four, merci beaucoup. À demain. La suite, c'est le journal de Sébastien Paour, journal raccourci, mais derrière, il y a un téléphone sonne. Il vous concerne forcément vos retraites, la mobilisation, la démission de Jean-Paul Delevoye. Où va le mouvement? Où va le gouvernement? Qui gagne la bataille de l'opinion? 01 45 24 7000. À tout de suite.